Voilà, bonjour à tous. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour la possibilité d'être ensemble encore ce matin pour te rendre un culte. Merci Seigneur parce que nous pouvons recevoir ta parole dans nos cœurs de différentes manières, qu'il s'agisse des prières, des moments pour les enfants, qu'il s'agisse des chants. Seigneur, tu as pourvu afin que tout notre être puisse recevoir de toi de différentes manières. Et Seigneur, nous voulons continuer à avoir le cœur ouvert afin que tu puisses parler. Seigneur, nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais d'entendre ta voix. Seigneur, tu as voulu l'homme et tu as voulu, Seigneur, communiquer avec lui. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à comprendre le message qui vient de ton cœur, ce qui est essentiel, ce qui est important, la raison même, Seigneur, pour laquelle tu as voulu que nous soyons là. Dans le nom de Jésus, amen. Un chrétien engagé, c'est un chrétien qui a été transformé par un message engagé, lui aussi. Le message de la parole de Dieu, le message de Christ crucifié, la résurrection, n'est-ce pas? C'est un message qui est assez clair et qui n'a pas besoin finalement de beaucoup d'explications. Et c'est aussi un message qui est radical. Le Seigneur nous dit clairement qu'on ne peut pas être ses disciples si on ne laisse pas même sa famille, si on n'abandonne pas tout ce qui est terrestre pour le suivre lui. Dans Colossiens 2, au verset 6, nous lisons « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. » Nous avons une marche, nous sommes dans un processus lorsque nous nous engageons auprès du Seigneur. Le terme « engagement » implique un investissement, quelque chose qu'on met dedans, quelque chose de fort. Et dernièrement, je me suis dit, mais est-ce que nous avons suffisamment d'ambition en tant que chrétiens? Alors, le terme « ambition » est connoté, n'est-ce pas? On considère que c'est se mettre en avant, c'est vouloir paraître grand. Mais là, je parle d'ambition dans le sens de passion, de vigueur, dans le sens de radicalité. Est-ce que notre vie spirituelle, est-ce que l'ambition est existante pour notre vie spirituelle? Qu'est-ce que nous visons, finalement? Dans Timothée, dans 2 Timothée, on va le lire, le chapitre 4, verset 7, C'est Paul, donc, qui s'adresse à Timothée. Il dit « J'ai combattu le bon combat, J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, sa venue. Et quand il disait ça, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, il pensait aussi à ce qu'il avait dit précédemment dans Actes 20, verset 24. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle et la grâce de Dieu. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. C'est peu dire de dire que l'apôtre Paul était radical. Et si on va dans 1 Corinthiens 9, eh bien, il continue à nous parler de cette fameuse course, ce processus. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les processus. Un Corinthiens 9. À partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul décrit la vie chrétienne comme un processus, comme une course, quelque chose dans quoi on s'engage un jour et qui a un but. Et il attend de lui-même, mais aussi de chacun d'entre nous, que tous courent comme pour remporter le prix. Lorsque vous assistez à n'importe quelle compétition, qu'il s'agisse du ski actuellement ou des Jeux Olympiques, je crois qu'il n'y a pas un seul candidat qui n'espère pas gagner. Même le pire, n'est-ce pas? Même celui qui, quelque part, sait que jamais il ne pourra gagner, s'est préparé pendant 4 années. A fait tous les sacrifices. J'avais regardé un documentaire sur une femme dont la discipline était de l'arc, le tir à l'arc. Et elle venait du Bhoutan. Alors, au Bhoutan, elle était très forte. Mais elle savait que voilà, son équipement était rudimentaire et que jamais elle ne parviendrait à remporter le prix. Et donc, ils ont filmé pendant des mois son entraînement et les différents paliers qu'elle a dû traverser dans son propre pays pour être qualifiée et ensuite la difficulté qu'elle avait simplement pour se rendre, trouver l'argent sur le lieu des Jeux Olympiques et tout ça. Elle a investi un travail absolument extraordinaire. Parce que quelque part, au fond d'elle-même, même si elle était sûre à 99,9% qu'elle ne remporterait pas la victoire, il y avait suffisamment encore d'espoir pour que peut-être un miracle ait lieu, quelque chose qui fait que, voilà, quand même, elle aurait une médaille. Elle monterait sur le podium. Et moi, ma question ce matin, c'est celle-ci, mais notre vie chrétienne, est-ce que nous la vivons de cette façon-là? Est-ce que nous nous sommes engagés dans cette vie chrétienne pour remporter le premier prix? Est-ce que nous avons cette ambition-là? Ah non, mais c'est pas bien dans les milieux évangéliques, on peut pas dire qu'on est ambitieux, tu comprends? Ça va bien dans le commerce et tout. Est-ce que nous avons des ambitions inférieures au premier prix? Ça conditionne toute notre préparation. Je sais bien que Pierre de Coubertin disait, oui, l'essentiel, c'est de participer. Il n'y a aucun sportif de haut niveau qui est d'accord avec ça. Aucun. Un sportif de haut niveau, s'il ne gagne pas sa médaille d'or, il fait une dépression. Et vous pouvez toujours lui sortir le dicton de Pierre de Coubertin. N'est-ce pas? Non, l'essentiel, ce n'est pas de participer. L'essentiel, c'est de gagner. Et je ne vise rien d'autre que gagner. Il y a longtemps, moi-même, j'ai pris cette décision un jour. J'ai dit, Seigneur, moi, je m'engage pour gagner. Je ne veux pas d'une vie médiocre en tant que chrétien. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je veux une vie victorieuse. Je ne veux pas traîner des casseroles toute ma vie. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des millions de gens qui traînent des casseroles dehors. Des millions de gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Ça ne m'intéresse pas de vivre une vie comme ça en tant que chrétien. Et si Dieu te dit, si tu dis que tu es celui qui peut tout régler dans la vie des gens, alors je te mets au défi de régler les choses dans ma vie. Et il l'a fait. Il l'a fait. Une des premières églises dans laquelle j'étais, on m'a dit, oh, tu sais, voilà, le Seigneur a tout fait. Mais, oh, ça va être difficile, hein. Il y a beaucoup de... Oui, pour l'instant, tu es sur un petit nuage et tout, mais tu vas voir, hein, les retours de bâton et... J'ai pas accepté ce discours. Je n'ai pas accepté ce discours. J'ai dit, si Dieu est Dieu, s'il a fait ce qu'il a fait, alors il est capable de me faire vivre l'excellence. L'ambition spirituelle n'est pas un péché. Je ne parle pas de ce spectacle désolant auquel on assiste parfois, où des gens se retrouvent à remplir des stades en utilisant toutes sortes de stratégies marketing qui n'ont pour but que l'orgueil de l'homme. Je ne parle pas de ça, bien entendu. Je parle de vivre, d'être capable de vivre une vie dans laquelle les problèmes sont réglés, dans laquelle la paix est la norme, dans laquelle la joie quotidienne est la norme, dans laquelle la force vitale que donne la foi de Christ est la norme. Vous savez, la proximité avec l'Église persécutée aujourd'hui me montre à quel point nous sommes loin de vivre cette norme. Et comment des personnes qui passent 5 ans, 10 ans, et là nous avons nos amis d'Érythrée, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en prison en Érythrée, eh bien, arrivent malgré tout à vivre l'excellence dans ces conditions-là. Peut-être qu'ils vont mourir en prison, mais ils vont mourir en ayant atteint le but. Parce que ce n'est pas la délivrance auquel ils auront assisté, mais c'est la capacité à persévérer et à aller au fond des choses, à aller au bout des choses et à continuer à être un témoin jusqu'à la fin. Alors, à quelles conditions est-ce que je peux prétendre à l'ambition spirituelle? Eh bien, dans je trouve le verset. Philippiens 3, au chapitre 12, l'apôtre Paul nous donne la réponse à cela. Il parle là aussi de la course et dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Voilà la réponse. On peut s'engager dans la course lorsqu'on a été saisi par Jésus-Christ. C'est la condition même pour démarrer. Et ça, c'est le début de l'engagement, c'est le début de la course, c'est là où nos ambitions se placent. Comment suis-je né? Quelle est ma nouvelle naissance? Quel est le résultat? Est-ce que je suis bien né? Dans le naturel, il y a des enfants qui naissent mal. Dans le spirituel aussi. Est-ce que je suis bien né? Est-ce que je suis bien pardonné? Combien de chrétiens n'arrivent pas à saisir le pardon de Christ? Combien de chrétiens continuent à être hantés par les fantômes de leur passé? Parce qu'ils ont eu un passé lourd, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses qui déplaisent à Dieu. Et pourtant, Christ a enlevé la peine qui était attachée à notre péché. N'est-ce pas? Il l'a publié que nous étions libres devant la puissance de l'ennemi. L'ennemi sait que nous sommes libres et nous n'arrivons pas à vivre dans cette liberté. Pourquoi? Est-ce que nous avons déjà abandonné dès le départ? Frères et sœurs, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont été saisis par Christ sont libres. Laissez-moi vous le répéter. La vérité, c'est que tous ceux qui ont été saisis par Christ sont libres. Il n'y a plus de condamnation. Si vous avez une condamnation sur vous alors que Christ s'est saisi de vous, c'est un mensonge du diable. Et vous n'avez pas le droit de croire les mensonges du diable. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Ça n'est pas ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Il doit croire celui qui l'a saisi, non pas celui qui ne veut pas le lâcher. Frères et sœurs, est-ce que votre ambition ce matin, c'est de dire « Oui Seigneur, je crois ». à 100% que je suis libre. Et aujourd'hui, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Je veux vivre dans cette liberté. J'en ai le droit en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas moins que ça. Si vous pensez que ça n'est pas possible et que vous avez besoin de passer par un psychothérapeute et tout le reste, eh bien vous vous fourvoyez. Vous avez cru au mensonge du diable. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin d'une oreille attentive. Je ne suis pas en train de dire ça. Et l'Église, normalement, est pourvue pour que les gens puissent parler. Mais est-ce qu'encore vous parlez? Est-ce qu'encore vous le dites? Ou est-ce que vous prenez ça juste en vous et vous dites « Ah, je vais rester avec mon truc là. Finalement, je me sens si bien avec. » Mais c'est ça le problème. C'est que même ce genre de choses-là peut être un projet pour une vie complète. Gardez son problème. C'est mon projet. Comme ça, je sais que de temps en temps, on va s'occuper de moi, on va gérer, on va dire « Oh là, il y a des soucis, alors on va s'occuper. » Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de vivre dans la liberté, que vous serviez à quelque chose, que je serve à quelque chose. Ce qui me met en colère, c'est que Satan arrive à nous faire croire à ce genre de mensonge. Tu n'as pas été délivré. C'est pas fini, il y a encore des problèmes. Moi aussi j'ai un lourd passé. Encore faut-il être saisi par Christ. L'apôtre Pierre a pensé qu'il pouvait accompagner Christ à la croix, hein, qu'il pourrait être présent, qu'il pourrait être son protecteur. Et il a dit à Jésus, « Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas venir avec toi ?» Et Jésus lui a dit, « Tu ne peux pas. Tu n'es pas en mesure maintenant encore de venir. Tu n'es pas prêt. » Pierre a dit, « Mais pourtant je donnerai ma vie pour toi. Tu as tellement fait pour moi. Tu as été tellement bon. Tu as été une telle révélation pour moi. » Mais même si Pierre avait été au contact de Christ, il n'avait pas encore été saisi par Christ. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu se jeter sur lui pour se saisir de lui. Et dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, des évangéliques, qui ne croient plus au Saint-Esprit. Départ de la course. Le moment où on peut aller jusqu'au bout avec Christ. Le moment où on peut aller en prison et mourir, c'est lorsqu'on a été saisi par Christ, lorsqu'il a déjà accompli le travail et que par la foi, nous croyons qu'il a accompli tout ou qu'il a tout accompli. Pourquoi faut-il replacer l'ambition spirituelle dans notre vie? L'apôtre Paul, dans sa course, dit qu'il y a un combat à mener, le combat de la foi. C'est qu'il y a effectivement ce moment où nous apprenons que nous sommes délivrés. Et il y a ce chemin dans lequel nous engageons résolument, avec cette espérance de la délivrance. et ce travail spirituel que le Saint-Esprit commence à initier en nous, par lequel il nous convainc jour après jour de notre délivrance, par lequel il nous montre toutes les choses qui doivent dégager. Et vous savez, lorsqu'on est un jeune chrétien et qu'on a effectivement un passé lourd, béni soit le Seigneur, il nous apprend que nous sommes délivrés de tout. Mais il ne nous dit pas de quoi nous devons être délivrés tout de suite. Et heureusement. Parce que sinon, je crois que nous aurions un choc absolument extraordinaire pour certains d'entre nous. Et je crois que nous tomberions en dépression ou peut-être avec un arrêt cardiaque tellement il y a de choses. Et nous ne les réalisons qu'au fil du temps, alors que l'Esprit de Dieu nous les révèle. Mais lorsque l'Esprit de Dieu les révèle, il attend de nous que nous soyons ambitieux à nouveau, que nous soyons radicaux dans la façon de traiter les choses. Et lorsqu'il montre, alors il faut s'en débarrasser, ou il faut demander pardon, ou il faut aller voir la personne avec laquelle nous avons eu un problème dans le passé pour aller lui demander pardon. Il faut agir en fonction des choses qu'il nous montre. Il y a un combat à gagner, le combat de la foi. Hein, j'ai lu dans Colossiens, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. C'est-à-dire comme vous avez été saisis, comme il y a eu un début, et bien qu'il y ait une continuité. Comme il y a eu un commencement, qu'il y ait un prolongement. Marchez en lui. N'est-ce pas? À moins que Christ ne puisse travailler en profondeur dans nos vies, eh bien, nous ne pouvons donner aucun témoignage de son œuvre dans nos vies, justement. L'apôtre Pierre, enfin Simon-Pierre, n'a pas pu suivre Jésus parce qu'il n'avait pas été saisi par lui. Il a été distancé à un moment. Il l'a suivi jusqu'à ce que sa force et sa puissance d'homme se trouvent confrontés à l'impossibilité. Mais une fois que nous avons été saisis par Christ, et une fois que nous sommes engagés dans ce chemin, eh bien, le Seigneur nous montre les choses. Et j'aimerais juste qu'on lise rapidement dans Luc cette histoire avec le Gadarénien. Luc 8. Donc Jésus a rencontré cet homme qui était rempli de démons, rempli de problèmes, rempli de souffrances, rempli de dépression, rempli de maladies, rempli d'une quantité de choses desquelles il ne pouvait se défaire. Il fallait l'intervention de Dieu, de Christ. Et nous le trouvons au verset 38 alors qu'il est délivré. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Ça, c'est magnifique. Est-ce que nous pouvons, si nous fermons les yeux, aller dans nos familles, autour de nous, à nos voisins, et leur raconter ce que Dieu a fait dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que ton voisin peut frapper à ta porte et te poser cette question? J'ai appris que tu es un véritable croyant. Raconte-moi ce que Dieu a fait dans ta vie. Ah. Oh, attends, il faut que je réfléchisse. Alors, il y a longtemps, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Ou est-ce que ça va sortir juste comme une explosion? Ou est-ce qu'on va être gêné? Raconte-moi ce que Dieu a fait dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons replacer l'ambition spirituelle au centre de notre vie. Parce que lorsqu'une question nous est posée, ça doit sortir comme une explosion, effectivement. On ne doit pas avoir à réfléchir pendant une demi-journée pour essayer de picorer par-ci, par-là dans notre vie antérieure et peut-être il y a très longtemps, les choses que Dieu a faites, il fut un temps, il était une fois. Et après, pourquoi faut-il remplacer l'ambition au cœur de notre vie? Comment peut-on replacer l'ambition au cœur de notre vie spirituelle? Je dirais que le Seigneur attend de nous que nous soyons convaincants dans toutes les situations dans lesquelles il nous place. Et arrive une période que j'appelle la période des tests. La période où Dieu nous met sur le grill. La période où il attend de voir comment, au milieu des difficultés, au milieu des souffrances, en prison pour certains, l'homme qui se réclame de Dieu réagit. Parce que, et Dieu ne le fait pas pour nous faire souffrir. Dieu ne le fait pas parce qu'il ne sait pas où nous en sommes spirituellement. Il le fait pour que nous sachions où nous en sommes spirituellement. Parce que ce qu'il souhaite, c'est que nous remportions cette victoire de la foi, ce combat de la foi. Il veut que nous remportions ce combat. Que nous ne soyons pas ballottés dans tous les sens dans notre croyance, dans la foi que nous avons en lui. Il veut que nous soyons sur du terrain ferme. Et pour cela, il nous teste. Il dit à Timothée, dans Timothée 6, 12, « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Rappelez-vous votre confession, rappelez-vous votre baptême. Lorsque vous avez témoigné avec toute la force que vous aviez dans votre cœur, rappelez-vous ce moment. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez perdu du terrain? Ou est-ce que vous en avez gagné? Si vous en avez perdu, eh bien il est temps d'inverser la vapeur Il est temps d'inverser les choses et d'avoir de l'ambition pour votre vie spirituelle. De croire que oui, c'est possible et que toutes les impossibilités que j'entends sont celles que le malin veut distiller dans mon esprit. Il y a un homme qui croyait qu'il était possible de recevoir cette victoire absolue. Dans Genèse 32, au verset 24, Jacob. Jacob demeura seul. C'est important parfois. Aujourd'hui, on n'aime pas beaucoup la solitude. Hein, on a toujours la télé allumée. Il y a toujours un bruit de fond. Il y a toujours l'ordinateur allumé. Il y a toujours le téléphone portable. Il y a toujours une musique. On n'aime pas être seul. On a trop peur de ce qu'on va entendre. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève ». Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Jacob a combattu vaillamment. Et l'homme contre qui il se battait l'a blessé pour interrompre le combat. Mais Jacob ne s'est pas laissé démonter. Il s'est saisi de lui avec tout ce qui lui restait comme énergie. Il l'a pris et il a dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Est-ce que ça, c'est pas être ambitieux? Est-ce que ça, c'est pas vouloir absolument la bénédiction de Dieu? Est-ce que nous nous sommes saisis de Dieu? Vous savez que si Christ nous a saisis, eh bien, il nous donne ce privilège aujourd'hui que de pouvoir nous saisir de lui. Qui est de pouvoir l'agripper de toutes nos forces et de dire « Seigneur, je refuse que ma vie reste ce qu'elle est. Je veux que ça change et je n'ai aucune autre ambition dans ma vie que de vivre pour toi. Mais pour cela, il faut que tu me bénisses. Je ne peux pas sans cela. » N'est-ce pas, c'est le stade où nous avions un premier stade où nous étions dans l'impossibilité de suivre Christ. C'était le cas de Simon-Pierre. D'aller jusqu'à la mort avec Christ. Ensuite, nous en sommes arrivés au stade où nous pouvions raconter ce que Dieu avait fait pour nous. Et là, nous en sommes au stade tel que, après la venue du Saint-Esprit, les disciples pouvaient dire la chose suivante. Acte 15, verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Vous voyez la progression. Il y a le stade où on ne peut rien faire si on n'a pas été saisi par Christ. Il y a le stade où on peut raconter les merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies. Et il y a le stade où on peut raconter ce que Dieu a fait avec nous. Où est-ce que nous nous trouvons dans ce processus? Où est-ce que nous nous trouvons dans cette course? Est-ce que nous sommes tout au début en nous disant « Mais jamais je n'y arriverai. J'ai toujours été un perdant dans ma vie. Je n'ai jamais rien réussi. » Frères et sœurs, vous n'avez pas de plus grand raté que celui qui est devant vous. Mais s'il y a une chose que j'ai refusé de rater, c'était ma vie avec Christ. Et c'est l'ambition que Christ attend et veut créer en nous, pour chacun d'entre nous. Il veut que vous soyez en mesure de raconter les merveilles qu'il accomplit dans votre cœur, dans votre esprit, les transformations qu'il fait. Mais est-ce que vous y croyez? Oui. Oui. Est-ce que vous croyez aussi que Dieu va se servir de vous? Qu'il va vouloir travailler avec vous? Hein, je le dis souvent, on n'est pas ouvrier pour Christ. On est ouvrier avec Christ. On ne travaille pas pour lui. Ce n'est pas notre patron. Mais en même temps, on ne fait pas les choses sans lui. Ce n'est pas possible. C'est lui qui les fait, mais nous les faisons avec lui. Il veut que nous soyons avec lui. Est-ce que nous voulons compter dans l'avancée du royaume de Dieu? Est-ce que nous voulons avoir une place où Dieu peut nous donner des responsabilités, nous dire « Allez, va, lance-toi, je suis avec toi. » Nous allons remporter une victoire ensemble ici. Ah oui, mais Seigneur, il y a la prison là-bas. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh oui, ça fait partie de la vie du croyant. Mais tu sais, le combat de la foi, c'est aussi en prison qu'il se remporte. C'est alors que la terre entière est contre toi, alors que le monde entier est contre toi, alors que Satan a développé un plan énorme contre toi. Eh bien, je te donne une certitude, je te donne une garantie absolue. C'est que si tu te reposes sur la foi que j'ai mis dans ton cœur, alors tu seras plus que vainqueur. Frères et sœurs, ayons de l'ambition spirituelle. Ça n'est pas un péché. C'est la norme. Dieu veut que nous soyons victorieux avec lui. C'est la norme. Ce n'est pas extraordinaire. C'est juste la norme. Je vais prier et je vais juste laisser un silence pour que nous puissions nous-mêmes prier chacun. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les certitudes que tu places dans notre cœur. Seigneur, tu nous as montré que, en tant que sauveur et en tant que marchant sur la terre, tu ne t'es pas compromis dans ce que tu croyais. Et ton enseignement, Seigneur, a été suffisamment clair pour que nous puissions nous engager derrière toi et croire de tout notre cœur aux grandes possibilités de la vie de Christ en nous par le Saint-Esprit. Seigneur, je remets chacun, et moi y compris, entre tes mains. Nos frères et sœurs, Seigneur, d'Érythrée, qui ont eux-mêmes marché longuement pour arriver ici. Seigneur, qui savent que ça signifie de cheminer. Seigneur, que tu puisses nous bénir chacun. Et que nous puissions recevoir, Seigneur, cette volonté de gagner, de remporter une victoire. Seigneur, mais cette victoire, nous voulons la remporter en ayant les yeux fixés sur toi, qui est celui qui stimule notre foi. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.